Oui, c'est merveilleux. Je voudrais vous inviter tous à vous lever. Je vais lire le passage aujourd'hui. Avant que je le fasse, je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi pour la prière pour les événements de qui sont passés à cette semaine à Tambridge. Prions d'abord. Père, nos cœurs sont lourds à cause de la tragédie qui s'est passée à Tambridge. Nous élevons tous les étudiants, les enseignants, les gens qui ont toutes les personnes. Je prie pour la communauté, Seigneur, que tu les entoures de ta grâce, que tu guéris ceux qui ont été touchés, ceux qui ont été connus, qui ont. Je prie pour l'Église à Tambridge, que tu leur donnes la sagesse que toi seul peux donner, au nom de Jésus. Amen. Vous allez rester debout pour le passage d'aujourd'hui qui parle de l'amour, qui dit ceci, 1 Corinthiens 13, 8 à 13. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Pasteur Ray, à vous. Merci, Pasteur Marc. Restons debout pour la prière. Père, nous te remercions encore de nous aimer d'une façon pour nous qu'il est impossible de comprendre comment tu nous aimerais si fort. Envoyer ton Fils unique qui nous a envoyé et qui nous a aimés jusqu'à la fin. Alors nous sommes reconnaissants. Et en ces moments, alors comme tes disciples, nous prions que tu nous parles par ton esprit. Merci pour la Bible, merci pour la parole écrite. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole et que nous pouvons entendre ta voix. Je prie, Père, que nous puissions t'entendre clairement et que nous puissions comprendre ce qui veut dire suivre tes voies. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, le passage que le pasteur Marc vient juste de lire. Et le titre de ce message de ce matin est « En fin de compte, qu'est-ce qui compte vraiment? » Je suis le pasteur Ray, un des pasteurs ici à Willingdon. Je vous accueille ici, bienvenue, et ceux qui sont en ligne aussi, et le groupe qui est dans la connexion. Commençons avec un jeu ce matin. Qu'est-ce qui est pour maintenant et qu'est-ce qui est pour toujours? Les bonbons pour aujourd'hui ou pour toujours? On voudrait que ça soit pour toujours, mais c'est pour maintenant. Qu'en est-il pour les devoirs? Pour toujours. Dans le premier service, un professeur a crié forever. OK. C'est pour maintenant, heureusement, c'est pas pour toujours. Et toi qui as crié, habitue-toi à cela. Le fait d'être un bébé, c'est pour aujourd'hui ou pour toujours? Certains d'entre vous voudraient rester bébé pour tout le temps, mais bon, c'est pour un temps, c'est pas pour toujours. Et le fait d'être étudiant pour toujours ou pour maintenant seulement, c'est pas pour toujours. Ça semble que c'est pour toujours, mais c'est pour maintenant seulement. Les selfies, c'est pour maintenant ou pour toujours? Pour toujours sur Internet, mais pas pour toujours. En fait, je devrais prendre même un selfie pour moi maintenant. Je vais me prendre un selfie. En 2025, plus de 2 000 milliards de photos ont été prises. Une seule année. Pour certaines tranches d'âge, une photo sur trois était un selfie. Beaucoup d'amour-propre. Une de mes filles suivait un fil d'actualité sur les réseaux sociaux encourageant à avoir plus d'amour-propre. Et une personne qui participait a écrit en majuscule, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider avec ces trucs d'amour propre? Je ne suis vraiment pas bon dans ce domaine. l'amour-propre. Qu'en est-il de l'amour de Dieu pour nous, pour maintenant ou pour toujours? Qu'en est-il de notre amour pour Dieu, pour maintenant ou pour toujours? Qu'en est-il de notre amour pour les autres, pour maintenant ou pour toujours? Qu'en est-il de l'amour propre, pour maintenant ou pour toujours? L'amour ne périt jamais. Le chapitre que nous avons étudié de 12 à 14 parle de beaucoup de dons spirituels. C'est des capacités ou des habiletés spirituelles qui sont données à chaque personne dans la famille de l'Église pour le bien de tous. Lorsqu'il fonctionne en harmonie, guidé par le Saint-Esprit, nous faisons tous l'expérience de l'amour de Jésus de tant de manière magnifique. Nous expérimentons l'amour de Dieu de manière magnifique. Mais pouvez-vous imaginer un instant, pratiquer vos dons spirituels dans une église, une famille d'église, où les gens sont divisés, où les gens sont en compétition les uns avec les autres, où les gens ont des favoris, où les faibles sont repoussés en bordure du terrain, où les gens insistent sur leurs propres droits, où ils pensent plus à eux-mêmes qu'à d'autres, où les gens pensent qu'ils sont plus importants que d'autres. Ça, c'était l'église de Corinthe. La semaine dernière, le pasteur Vin a parlé de sept premiers versets de ce chapitre 13, 1 Corinthiens 13. À un certain moment, en résumé, si je suis spirituellement sophistiqué et super prêt au sacrifice de moi-même, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien devant Dieu. Un zéro absolu, le divin calcul qui est 50 moins 1 égale 0. Zéro. Après tout, qu'est-ce qui est le plus nécessaire pour que le peuple de Dieu soit entier? Un leader charismatique, un don de prophétie, des expériences supernaturelles, l'éducation, des politiques de gouvernance parfaites. À la fin du chapitre 12, Paul écrit, il conclut dans ce chapitre en disant que « Je vais vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence est la voie au-delà de toute la comparaison, ou la meilleure voie de toutes. » Paul ne promet pas une voie qui mène à plus de dons spirituels, mais une voie qui mène au-delà de ceci. C'est une voie que tous ceux qui suivent Jésus doivent emprunter. Jésus est le meilleur exemple de quelqu'un qui aime de cette manière. Juste avant son procès et sa crucifixion, Jésus s'éleva du repas, ôta ses vêtements du dessus, prit une serviette et un bassin, s'agenouilla et commença à laver les pieds de ses disciples. Jean 13, 1 dit ceci, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. » Jusqu'à la fin. Alors, imaginez un moment. Jésus a investi en Judas pendant 3 ans. Il a inclus dans son cercle rapproché d'amis. Judas a entendu son enseignement. Il a été témoin des miracles, Judas. Jésus lui a même confié les finances. Lors de la dernière scène, Jésus sait que Judas a conspiré contre lui. Alors, si vous étiez là, si j'étais là, auriez-vous lavé les pieds de Judas? L'auriez-vous laissé s'asseoir à la table de la dernière scène? Auriez-vous partagé le pain avec lui? Jésus lui a lavé les pieds. Et Jésus a lavé les pieds de Pierre, même s'il savait que Pierre allait le trahir 3 fois, le renier. Il a lavé les pieds de tous les disciples, même s'il savait qu'ils tous s'enfuiraient de peur. L'abandonnerait lorsqu'il serait arrêté. L'amour de Jésus ne prend jamais fin. Il ne cesse jamais d'exister. La voie par excellence n'est pas une voie qui mène à l'amour. L'amour est la voie. L'amour est la voie. Alors, en fin de compte, la vie chrétienne n'est pas la voie des dons spirituels, mais la voie de l'amour. La voie est la voie de l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? L'amour est humble. L'amour pense le meilleur des autres. L'amour fait grâce et pardonne. L'amour ne tient pas compte des mauvaises choses qui se sont passées. L'amour se vide de lui-même. L'amour sert activement les autres. L'amour n'est pas consumé par sa propre importance. L'amour endure à travers la souffrance parce qu'il croit en l'amour inébranlable de Dieu. L'amour espère les miracles, l'intervention, la restauration et la transformation. Est-ce que l'amour tolère tout? Non. L'amour dit la vérité. L'amour peut même discipliner. L'amour peut poser des limites. Mais l'amour n'abandonne jamais l'espérance. L'amour ne périt jamais, mais certaines choses, oui. Les dons spirituels prendront fin. Verset 8 de 1 Corinthiens, chapitre 13. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Les trois dons nommés au verset 8 sont soigneusement choisis. Voyez-vous, les Corinthiens accordent une grande valeur à la connaissance supérieure qu'ils considèrent comme les paroles de connaissance, la compréhension de mystères de Dieu, la connaissance de voix de Dieu dans le présent. Ils accordent une grande valeur au fait de proclamer des paroles divines, de parler en langue humaine et angélique. Mais le problème n'est pas les dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés par Dieu. Ils sont bons et valides. En fait, Paul dira même à l'église de Corinthe, au chapitre 14, 1, le problème corinthien n'est pas qu'il croit aux dons spirituels et les pratiques, mais qu'il pense montrer déjà des signes de la perfection spirituelle. Maintenant, enfants, étudiants, les adultes peuvent faire ça aussi, mais c'est quelque chose dans lequel vous êtes meilleur. Êtes-vous bon dans le dessin? Peut-être avez-vous pris un de ces livres. Êtes-vous bon dans la peinture, dans les mathématiques, dans l'épellation des mots? Êtes-vous bon dans le football? Faites-le-vous parfaitement? On n'est pas sûr, peut-être. Voyez-vous, nous aspirons tous à la perfection, à faire les choses d'une meilleure façon, la meilleure façon possible. Mais dans cette vie, nous ne serons jamais parfaits. Quelle beauté qu'elle soit, notre peinture ou notre dessin, quelque excellent que nous soyons, nous n'atteindrons jamais la perfection. Et cela nous doit nous ramener au confort, parce que certaines personnes autour de nous, des fois, ont une grande attente à nous, des fois des attentes irréalistiques. Nous devons savoir que nous ne devons pas connaître toutes choses, nous ne devons pas être au top de nos jeux. Et il faut savoir qu'on ne sera jamais parfait. L'expérience humaine sera toujours partielle. Dans cette vie, même le remplissage de l'esprit est toujours partiel. La perfection n'est pas de notre temps. Quand Paul dit que la prophétie, la connaissance passera, qu'est-ce qu'il veut dire? Selon un point de vue, les dons de parole énumérés par Paul au verset 8, et certains ajouteraient les guérisons et les miracles, ont été donnés pour authentifier les apôtres au premier siècle, authentifier leurs écrits, mais après, ils ont cessé après la mort des apôtres et l'achèvement du Nouveau Testament, vers 100 après Jésus-Christ. Ils ont cessé parce que selon ceux qui défendent cela, parce que ce n'était plus nécessaire. Et ça s'appelle le cessationnisme. Je crois que le contexte indique clairement que Paul veut dire, ce que Paul veut dire. Quand ce qui est parfait sera venu et quand nous verrons face à face, et au verset 12, quand nous le connaîtrons comme nous avons été connus, ne se réfère pas, je pense que ça ne se réfère pas à la mort des derniers apôtres ou l'achèvement du Nouveau Testament. Un langage comme celui-ci ne peut se référer qu'au retour de Christ et au renouvellement de toutes choses quand tout sera parfait. Face à face est une expression claire de l'Ancien Testament pour désigner une rencontre personnelle avec Dieu. Lorsque nous rencontrons Jésus face à face, nous serons transformés à sa ressemblance. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Jusque-là, pendant le temps de l'entre-deux, entre la Pentecôte et le deuxième retour de Jésus, tous les dons spirituels énumérés dans le Nouveau Testament continuent, tous. La lecture simple du texte et de son contexte soutient cette interprétation. Ce n'est que lorsque nous verrons Jésus face à face que tous les dons spirituels, prophétie, langue, connaissance inclus, qui nous permettent de connaître Jésus en partie, de voir Jésus en partie, de servir en partie et de servir en son nom en partie, tous seront rendus obsolètes et abolis. C'est comme les étoiles qui disparaissent quand le soleil se lève. Et quand on va voir Jésus, quand on va être transformé en sa ressemblance, et toutes ces choses vont finir. À la fin, qu'est-ce qui compte? Avant d'arriver là, parlons de certaines autres choses qui prennent fin. Alors, toutes ces choses ici, espérez-vous, croyez-vous qu'un adulte peut s'asseoir ici? Est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que je joue avec ces jouets? Certains d'entre vous disent oui. Bon, si peut-être je joue avec mon petit-fils. C'est des choses qui appartiennent aux enfants. Ça reflète une phase de la vie. Et cette belle chaise verte, un gant de baseball, une balle de baseball, il y a l'ordinateur. Peut-être que quelqu'un voudrait faire un jeu. Alors, c'est lui qui s'assierait ici un peu plus... il a grandi, ou c'est lui qui s'assierait ici, serait en train de lire un livre, des bons livres. Et disons que cela reflète la vie adulte. Et une autre chaise ici, j'aimerais m'asseoir ici. Parfois, nous utilisons une canne assez tôt dans la vie, mais plus nous allons grandir à un certain point, nous en aurons besoin. Le point est que il y a des choses appropriées à différents stades, à différents moments de la vie. Qu'y a-t-il beau d'être un enfant, de découvrir, apprendre? Être un enfant, ça a ses limites. Mais être un enfant, ça prendra fin. Qu'y a-t-il de beau d'être un étudiant? Beaucoup de passions, des opportunités d'apprendre, de faire des amis, de rêver, d'explorer, d'innover. Mais les études aussi, cette étape de vie prend aussi fin. Quand j'étais jeune homme, il y avait une chanson célèbre, Forever Young, pour toujours jeune. Éternellement jeune, je veux être tellement jeune. Veux-tu vraiment vivre éternellement, pour toujours et à jamais? La chanson parlait du fait de grandir en Allemagne dans les années 80. Et c'était pendant la guerre froide. Elle parlait de la nécessité de chérir chaque instant, car tout pourrait venir en un instant. La vie pouvait prendre fin à n'importe quel moment. Malheureusement, ils ne pensaient pas au retour de Jésus. Ils avaient peur de la guerre nucléaire. Certaines choses prennent fin. Les étapes de vie prennent fin. L'enfance prend fin. Paul écrit au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je passais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Alors Paul, quand il était enfant, il parlait, il pensait, raisonnait comme un enfant sur la base de ses connaissances limitées et de son expérience de vie limitée. Quand il est devenu adulte, sa parole, sa pensée et son raisonnement étaient plus éclairés. Et il a mis de côté ses manières enfantines. Quand je pense à ma vie, à 16 ans, je savais à peu près tout. C'est merveilleux. À cette époque, je connaissais tout. J'étais impossible. Quand j'avais 21 ans, j'en pensais toujours que j'en savais tellement plus que maintenant, je venais juste de finir l'université. J'avais beaucoup de connaissances dans ma tête. Je pensais que je pouvais débattre avec n'importe qui. Qu'est-ce qui était mauvais avec moi? Maintenant, en vieillissant, je suis devenue de plus en plus consciente de tout ce que je ne connais pas. Combien je suis limitée. Je me souviens d'une conversation avec un anthropologue missionnaire qui s'appelait Dr. Jacob Lowen. Jacob avait été. Il avait. Interpréter les écritures, je ne sais pas combien de langues, il a interprété dans des langues ou des gens qui n'avaient jamais connu la Bible, et il était le premier à utiliser le traducteur de langue maternelle dans le travail de traduction. Il a publié de nombreux articles dans des revues savantes et écrit de nombreux livres. Maintenant, alors que j'étais avec lui, il était mourant et il a dit ceci, Ray. C'est incroyable comment on sait peu des choses et comme notre contribution est si petite. Au verset 11, Paul ne dit pas que la prophétie, les langues et la connaissance sont enfantines et qu'une personne plus mature peut très bien s'en passer. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Pour paraphraser, un spécialiste du Nouveau Testament, Gordon Fee, dit: Une foi adulte en Jésus n'est pas une foi totalement cérébrale, ennuyeuse et apprivoisée, sans le Saint-Esprit et ses dons. Le contraste est entre le présent et l'âge à venir. Il continue au verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Une chose à propos des miroirs corinthiens. Le miroir était fait de métal poli. C'était célèbre. Dans la littérature grecque et juive, les miroirs symbolisaient la révélation prophétique, des fois la connaissance claire. Alors le contraste ici n'est pas entre une image floue et une image claire, comme dans l'image sur ta carte de Costco. Est-ce que tu te poses la question si c'est toi? Le contraste n'est pas une image floue et une image claire, mais entre voir une image réfléchie et voir face à face. Alors j'ai apporté mon miroir ici, mon grand miroir. Si vous pouvez me voir soulever votre main, je peux vous voir au balcon, mais vous pouvez vous levez pas votre doigt. Oh, quelle merveilleuse foule. OK, tous d'entre vous. Est-ce c'est meilleur que ça? La réponse est non. Tu es plus beau face à face. L'image reflétée n'est pas comparable à celle qu'on a face à face. Pensez à la photo. Quelque bon soit la photo, c'est jamais la même façon de voir la personne face à face. La réalité est toujours meilleure. Le jour vient où Jésus reviendra et toutes les lumières moindres reflétant son image s'estomperont. On le verra face à face. Notre déclaration de mission d'Église est de connaître Jésus personnellement et de poursuivre son ministère. Dans cette vie, nous le connaissons en partie. Ce n'est pas que nous ne le connaissons pas, que nous ne connaissons rien. Dieu nous a beaucoup, il s'est beaucoup révélé. Nous connaissons en partie. Quand nous servons, nous le faisons en partie. Mais le jour arrive où nous le verrons tous devant nous. Et dans cette vie, nous ne touchons que le bord de son vêtement. Au retour de Jésus, nos notions, illusions et idées fausses sur Dieu, le monde et nous-mêmes seront dissipées et clarifiées. Nous verrons clairement, nous connaîtrons Dieu pleinement comme nous sommes pleinement connus. Paul écrit dans 1 Corinthiens 8, 3, si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu, il est connu de lui. Qu'est-ce dit-il? Il parle d'une connaissance basée sur une relation d'amour. C'est une relation. La connaissance de Dieu de nous n'est pas partielle. Elle est immédiate, complète et directe. Il nous voit clairement. plus important que notre connaissance. Il nous connaît avant même que nous soyons. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a pardonnés, il nous a restaurés. Il nous comprend mieux que nous puissions le faire. Plus important que notre connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu pour nous. Si tu es disciple de Jésus, ceci est vrai et ça devrait vous réconforter. Le plus important, c'est la connaissance de Dieu pour nous. Alors, je pose encore une autre question. Avons-nous encore besoin de plus d'amour propre? Probablement, c'est la concentration de notre culture, l'amour propre. Voyez-vous, quand nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous nous préférons nous-mêmes. Et quand nous nous préférons nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Quand nous nous préférons nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer les autres. Quand notre moi est au centre, le véritable amour est repoussé. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un réordonnancement de notre vie. Premièrement, nous avons besoin de savoir que Dieu nous aime inconditionnellement et complètement. Et si nous savons que nous sommes aimés de Dieu, si nous savons que nous l'appartenons pour toujours, pour maintenant et pour toujours, nous serons libres de l'aimer. Remarquez ce que Paul dit au chapitre 8, 3. Il dit, si quelqu'un connaît Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour est défini par l'exemple de Jésus. Jésus a donné sa vie, il a placé notre intérêt avant le sien. Il a donné sa vie par amour pour nous. Le véritable amour est une préoccupation désintéressée pour les autres. Et c'est pas de connaître beaucoup, mais c'est de grandir dans l'amour. Une connaissance supérieure était si importante pour les Corinthiens, mais quand elle sert nos propres intérêts, peut être dangereuse. Une connaissance spirituelle, une connaissance supérieure qui gonfle les égos, qui veut se faire valoir, n'est pas une connaissance donnée par Dieu. La preuve de l'amour ne se mesure pas par ce que nous savons, mais par l'amour, mais par ce que l'amour fait. C'est pourquoi l'amour est cité 15 fois dans ce passage. Une connaissance supérieure nous fait grossir la tête. Il y a un lien intime entre aimer Dieu et aimer son prochain. Si nous appartenons à Dieu, il demeure alors en nous. Son esprit en nous génère l'amour pour Dieu et pour les autres. C'est quelque chose que Dieu donne, qui le rend possible parce que lui-même, il est amour et il montre comment nous aimer nous-mêmes correctement. La parole ne dit pas que nous devrions nous haïr, que nous devions nous mépriser. Mais nous comprendrons seulement d'une bonne façon si nous connaissons d'abord, si nous savons d'abord que Dieu nous aime sans condition et complètement. C'est seulement quand nous comprenons l'amour et que nous sommes libérés pour aimer l'autre, on voit l'autre. Et nous nous voyons d'une bonne façon comme enfants de Dieu aimés par lui, maintenant et pour toujours. Au retour de Jésus, nous aussi, nous le connaîtrons pleinement comme nous sommes pleinement connus. Les dons partiels de cet âge toucheront à leur fin. La mission accomplie, ils seront remplacés de manière parfaite de parler, de connaître et d'aimer. Alors à la fin, qu'est-ce qui compte? Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Maintenant donc, dans ce temps présent, la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Cette triade de vertus est contrastée avec la triade de la prophétie des langues et de la connaissance au début de chapitre 8. Voyez-vous, la foi, l'espérance et l'amour sont des vertus essentielles dans notre vie chrétienne. Au commencement de notre voyage avec Jésus, dans notre, nous plaçons notre foi en Christ et Dieu nous pardonne. Nous faisons confiance à Dieu pour qu'il nous pardonne, qu'il nous accepte par Jésus-Christ. Ensuite, chaque jour de notre cheminement, nous avons confiance à la souveraine providence de Dieu, en son amour inébranlable et à sa bonté, même si nous ne le voyons pas. Et chaque jour, nous vivons avec l'espérance de la gloire future. Même quand on ne voit pas Jésus face à face encore, même quand on ne le voit pas encore face à face, nous faisons confiance. Et dans cette vie, nous vivons avec l'espérance de la gloire future, ce qui est notre clé pour les dons. Nous sommes orientés vers le futur, nous sommes en voie vers la maison. Et dans cette vie, la foi, l'espérance et l'amour sont indispensables. Mais l'amour est le plus grand. Pourquoi? Parmi les trois, seul l'amour ne périt jamais. Il n'y aura plus besoin de foi et d'espérance dans la vie à venir quand on aura rencontré Jésus face à face. Seul l'amour demeurera. L'amour à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes, les problèmes d'immoralité, de la compétition. Les pauvres étaient marginalisés, l'amour manquait. Comment pouvait-il jamais aimer Jésus, une telle église? Et si on pense à nous-mêmes, comment est-ce qu'il est possible d'aimer comme Jésus? Est-ce que c'est possible? Nous commençons par nous souvenir de l'amour de Jésus. Jésus est le meilleur exemple en ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 13. Il nous a, on dit qu'il nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Il supporte tout. Il a supporté nos péchés. Il nous a aimés jusqu'à la fin, même si il pouvait voir chaque page de nos cœurs pécheurs. Même si rien ne lui était caché. Jésus croit tout. Alors même que nous étions irrécevables et déshonorés, Jésus a cru au plan du Père. Il a cru que sa mort honteuse couvrirait notre honte. Jésus espérait tout. Il est mort au mur de Jérusalem, exposé et rejeté, croyant que nous serions amenés en présence de Dieu, unis à travers sa résurrection et sa mort. Nous serons unis à lui. Il a cru en cela. Jésus a enduré tout. Il a enduré la croix par amour, nous a achetés par son propre sang, afin que nous soyons présentés à Dieu le Père comme fils et filles, membres à part entière du corps de Christ. Et maintenant, étant enfant de Dieu, il a envoyé son esprit pour habiter en nous. Et on ne peut pas être plus près de lui. Il demeure en nous afin que nous soyons capables, libérés d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Jésus n'inspire pas seulement l'amour, mais il le rend possible. Le 28 mai 1914, le paquebot Empress qui quittait la ville de Québec en route pour Liverpool, en Angleterre. Seulement 2 ans plus tôt, la traversée transatlantique du Titanic avait connu une fin tragique. Cette histoire que peut-être beaucoup d'entre nous connaissent. Le souvenir de cet événement était dans l'esprit de passagers, frais encore. Mais c'était la 96e traversée de l'Empress Ireland. Il venait d'être équipé de canots et de gilets de sauvetage pour tout le monde, sûrement que ces voyages seraient sûrs. Mais alors, peu de temps après l'embarquement, encore sur le fleuve Saint-Laurent, dans un épais brouillard, l'Empress of Ireland est entrée en collision avec un charbonnier norvégien, le SS Storstag. Il a coulé en 14 minutes. Sur ces 1477 passagers, 1012 personnes sont mortes. Les navires avaient été équipés de 2200 gilets de sauvetage. Mais le naufrage a empêché beaucoup d'y avoir accès parce que ça s'est passé rapidement. La plupart de passagers dormaient lorsque le navire est entré en collision avec plus de 2000 personnes. Le naufrage de l'Empress de ces navires reste la plus grande catastrophe maritime canadienne en temps de paix, mais aussi une de ses plus grandes histoires d'amour. Voyez-vous, un groupe de jeunes chrétiens de l'armée du salut était à bord. Se rendant à une convention à Londres, ils ont célèbrement démontré un amour sacrificiel en donnant leur gilet de sauvetage à d'autres passagers non-croyants. Dans la communauté Armée du Salut, c'est connu comme le vendredi sombre. Sur les 170 membres de l'Armée du Salut à bord, 124 sont morts. Les témoignages d'un homme de 38 ans est consigné dans l'histoire. Il s'est noyé dans les eaux glaciales du Saint-Laurent. Une jeune femme chrétienne lui a lancé son gilet de sauvetage. Il a refusé. Il a dit, mais non, tu dois vivre, tu es plus jeune. Il lui a remis encore le gilet. Il dit, je mourrai mieux que toi aujourd'hui, ce soir. Et là, elle s'est noyée. Elle a pu donner sa vie parce qu'elle était connue de Dieu. Aimée d'un amour éternel qui ne fait jamais défaut, qui ne périt jamais. Nous sommes appelés à suivre la voie de Jésus, la voie de l'amour. Et l'amour, la voie de Jésus, c'est la voie de l'amour. Certaines choses peuvent être impressionnantes pour un moment, un temps. Certaines choses peuvent beaucoup compter pour nous maintenant. Certaines choses dont je vais citer, elles ne sont pas mauvaises. Elles peuvent juste prendre beaucoup de place pour nous à un certain moment. Comme la Coupe du Monde, comme le Super Bowl, ou la Coupe Stanley, ou une médaille olympique, ou bien une bonne note, un diplôme, un grade universitaire, la popularité. Les abonnés sur les réseaux sociaux, avoir raison, gagner de débats, une bonne affaire, une pension de retraite. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Prions. Père, nous venons devant toi humblement et nous confessons que nous connaissons en partie, que tu es plus grand, tu es tellement plus grand que nous pouvons imaginer. Nous te remercions parce que tu t'es révélé à toi, à nous, et nous sommes reconnaissants pour ce que nous connaissons. Nous prions que nous puissions continuer à grandir dans notre compréhension de qui tu es. Nous te remercions parce que le jour vient où nous te verrons face à face. Merci pour cette espérance sûre. Et nous confessons que nous aimons en partie. Loin de tout, nous sommes plus concentrés à nous-mêmes, notre amour-propre. Pardonne-nous de ne pas comprendre, de ne pas vivre dans la réalité d'être inconditionnellement aimé éternellement par toi et complètement aimé par toi. Et parce que nous sommes si aimés de toi, parce que tu nous as aimés le premier, maintenant, par ton esprit, nous pouvons t'aimer, t'adorer, nous retourner de notre égoïsme et de regarder vers toi. Nous pouvons voir tous ceux qui sont autour de nous avec amour, les atteindre, aller vers eux avec amour, les servir, prendre soin d'eux, et nous pouvons nous voir justement. Puissions-nous vivre, Seigneur, dans la beauté de ton amour. Puissions-nous comprendre, Seigneur, profondément qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que nous pouvons si facilement être passionné à gagner une compétition, à gagner, à faire une bonne affaire, quel qu'il soit, quoi qu'il en soit. Nous pouvons des fois nous donner à toutes les choses, mais qu'est-ce qui est plus important, notre amour pour toi ou ce que nous poursuivons? Transforme-nous alors que nous prions par la grâce de ton esprit. Nous nous humilions devant toi au nom de Jésus. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen.